Moi, je dois dire les menstruels.
C'est titre.
Les menstruels.
Les menstruels ou les éclatés, correspondance à X voix.
Bon alors, on fait quoi pour l'émission ? De quoi on aurait envie de parler ?
De politique ?
Oula, c'est large. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, Le digeste de l'occultisme, j'ai envie d'en parler.
Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi.
De nous-mêmes.
De métier ?
De bouffe.
Ouais, des pizzas.
De jeux, Carcassonne.
D'anthropologie.
De science.
De ménage, d'amour.
De couple.
De relations inconditionnelles.
De sexe aussi, non ? On pourrait s'écrire des petites nouvelles érotiques. Moi, j'en ai un rayon.
Ouais, mais en tout cas, faudrait utiliser le fait qu'on soit aux quatre coins de la France toutes.
Bretagne, Rhône-Alpes, région parisienne.
Dans des lieux.
Maisons, caravanes.
Des humeurs et en différentes compagnies.
Toujours en mouvement. Bassin méditerranéen, en ville, en campagne. En bateau, en vélo, en camion, à pied.
Bon, ce sera des paysages automatiques.
Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes.
Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier.
Ou on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac.
Des histoires polyphoniques.
Des poésies locales.
Des lectures olé-olé.
Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent.
Et une correspondance, ce serait pas chouette, dites ?
On pense à l'une, on pense à l'autre. On vit ici, on vit ailleurs. Envie d'écrire, envie de dire.
J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu 4 bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour.
C'est marrant, du coup, tu passes vraiment pour moi. La meuf qui veut parler de sexe, ça retombe sur toi à chaque fois.
Ouais, c'est marrant, je vois pas pourquoi.
C'est drôle, les hasards de la vie.
Ouais, c'est...
Bref.
Je te regarde. Tu me prêtes ta voix. Je te donne mon cœur. C'est ton histoire que j'encadre, et c'est dans tes couleurs que je plonge. L'apnée des années ne t'a pas fait perdre ta candeur d'enfant. Tu penses. Allongé, arriveras-tu à dormir ? Nu, à nu, tu mues. Dans ton corps immortalisé résident des rides indélébiles, couleurs craquelées, creusé de temps en temps par ton souffle lent. Tu m'intrigues. Dans ton histoire colorée de gris, il y a toujours une lueur levée dans un coin. Du pouce, je fais glisser la perle sur ta joue pourpre. Le cadre bancal de ta vie dit de nous, d'elle, de moi, que nous serons toujours là. Allongé, arriveras-tu à dormir ?
Chère fille, je me suis réveillée et c'était le printemps.
Il n'y a pas de printemps le long de ma vie. Je ne vois pas vos calendriers. J'ai beau faire des économies, par l'instant je ne peux jamais me le payer. Le mois de mai passe et m'oublie, et le bonheur en fait autant. Dès que je ne suis pas assez jolie, mais dans ma vie, il n'y a pas de printemps.
Je me suis réveillée et c'était le printemps. J'étais dure de glace. Couvée, les champs ne me voyaient pas. Gelée, mes sentiments ne bougeaient pas. En deçà de la transparence, des petites poissons colorées brillaient comme un arc-en-ciel. En plus, au-dessus de moi, les halos dansaient en cercle l'heure de chiffres. Certes, un peu froid, mais le silence me gardait justement chaud. Et après tout, je mors. Au loin, le soleil entrait sous la couche de glace. Il transparaissait mon corps tout pâle. Comme si une fourmi étincelante s'était égarée. Un rayon de soleil me chatouillait l'œil. Encore tout hibernant, j'ouvrais mes yeux alors et je me retrouvais au bois d'amour. Vous connaissez Madeleine au bois d'amour ?
Oui, je dirais qu'il y a un vent dans les arbres et puis des oiseaux qui chantent et des bruits de printemps, peut-être.
Sen, co się jeszcze śni.
Un rêve éveillé.
Melancholiczna atmosfera.
Ambiance mélancolique. J'avais envie de me dévêtir, être nue comme je suis. Blond. Bleu ou rose, des couleurs dispersées autour de moi. Les petites coléoptères tout dorées sautaient doucement à travers les feuilles. Peu à peu, le concert des oiseaux remplaçait le silence de la nature.
Es ist irgendwie am Träumen, schaut irgendwie den Himmel an, hacht die Blätter, wie sie rauschen.
Elle rêve, elle a un regard rêveur, et ouais, elle est très détendue.
Gut, sie liegt ja so im Wald, vielleicht hat sie einen See, vielleicht gehört vom See oder...
Vogelgezwitscher.
Ich denke auch vom Geruch her ist sicher halt so ein bisschen der Natur oder Wald.
Eine Odeur de Forêt.
Wie es keine Tannennadel hat. Also keine Tannen hat. Also eher halt einfach so sonst. Ja, genau. Von den Geräuschen nochmal, ich denke, Es ist schon ruhig, aber es hat halt einfach so die Naturgeräusche durch die Vögel, die man hört. Eventuell auch Enten oder so vom Teich. Auch nächstes Jahr komme ich wieder hierher im Frühling und fliege in die schönen Blumen. Sie denkt vielleicht an die Zukunft und malt sich etwas aus, wie etwas sein wird. Also wie
Réfléchir à mon avenir.
In 5 Jahren werde ich mit diesem Mann sein und glücklich sein oder irgendwie.
Réfléchir à mon avenir avec lui.
Was kommt noch? Was ist gsi?
Réfléchir à mon avenir. Un oiseau venait de se poser sur mes bras. Je m'imaginais volant à travers les bois, d'un bois à l'autre, toute légère, tout simple. Mais après, je regardais l'oiseau sur mes bras. Pourquoi pas rester avec lui? Va-t-il rester avec moi? Va-t-il m'aimer comme je suis? Je vais voler vers l'autre là-haut, je me disais. Je regardais l'oiseau, toujours sur mes bras. Me regarder encore, m'observer et m'observer. Je vais voler vers l'autre là-haut. Me regarder encore.
Und ein Eichhörnchen fällt vom Baum.
Des écureuils tombaient des arbres. Puis d'un coup, une hauteur descendante. L'œil du forêt entière était posé sur mon corps. Des limaces commençaient à ramper sur mon corps nu, partout des pattes qui regardaient. L'oiseau s'envolait, ma calotte glaciaire s'est cassée. Je me suis réveillée. C'est le printemps et moi je suis dans le nord. Aucun poisson ne nage plus tranquillement dans les eaux glacées. Que des chants pressaient dans les rues avec des mots compensés de shine. Le shine, l'apparence. Comme ce tableau Reclining Bacchante.
Je sais pas pourquoi, mais je trouve tout d'un coup le tout est plus sombre, un peu plus.
Inquiétant.
Oui, un peu.
Eine Schönheitsidol gesehen von der älteren Zeit her. Eine junge Frau, eher ein Mädchen.
Alors, il y a une femme qui est presque nue, couchée sur un divan, dans une pose un peu séductrice, avec un regard qui me semble un peu un mélange entre cherchant et en même temps un peu mélancolique.
Liegt auf einem gepunkteten Leopardenfell.
Und sie denkt vielleicht, ich wünschte, ich wäre woanders oder für mich.
J'aimerais être ailleurs, tout seul.
Sie schaut zu dem, was sie malt. Sie ist nachdenklich. Von mir aus habe ich das Gefühl, als will sie das, was sie macht, nicht machen. Und gleich macht sie es aus irgendwelchen Gründen.
Et puis elle regarde ailleurs, et puis l'homme il la regarde depuis derrière. Alors c'est un peu, est-ce qu'elle sait qu'il est là, qu'il la regarde ou pas? Est-ce qu'il va faire quelque chose qu'elle n'aimerait pas? Dans quelle position elle est par rapport à cet homme? Comme il est un peu posé en dessus d'elle, enfin un peu, il me semble presque qu'il est dans une position de pouvoir par rapport à elle, mais ouais, je sais pas, c'est peut-être spéculatif. Là, avec tout le fond noir, c'est marrant maintenant, je trouve. C'est beaucoup plus. Ouais, presque un peu angoissant avec l'atmosphère. Elle est beaucoup plus.
Et avant, c'était sombre. Sans l'homme,
c'était pas tant, ouais.
Erscheinen, apparaître, Abendschein, Widerschein, Dämmerschein, Sonnenschein, même Heiligenschein, le nombre, et puis tout qui est fausse, l'apparente. Der Scheintod, la. Le tremble-œil, das Scheinbild, le monde illusoire, die Scheinwelt. Unscheinbarkeit, la capacité à se fondre dans le paysage. Mais moi, j'entends que des bruits. et enfin scheinlich. Probable, en allemand le mélange entre frais et semblant. Un frais semblant ce printemps. Mais probablement nous voulons tous rien qu'être aimés vraiment. Tableau était Madeleine au bois d'amour d'Émile Bernard 1888 et Recycling Bacchante de Trutta 1824 à 1840. Merci à Laura Bolleber, Maria Oecker, Jan Skalski et Thomas Engler.
Ils avaient rassemblé tout le monde dans la cour du château où on était, pour, avec les mitrailleuses, pour mitrailler tout le monde. Et moi, je manquais à l'appel. Alors, ils sont venus me chercher à l'école. Et en fait, c'était pour me mettre moi toute seule devant la mitrailleuse et menacer tout le monde, s'ils ne disaient pas la vérité, de me tuer. Parce que ma mère était allée aider le maquisard. Pendant, elle faisait des... Les Anglais venaient parachuter des armes et elle les cachait. Elle travaillait pour le maquis, quoi. Alors, moi, je ne savais pas, bien sûr, ils ne me le disaient pas. Je ne pouvais pas leur dire quelque chose, moi. Alors, ils ont, puisque personne ne voulait avouer, ils ont dit, on va aller chercher votre fille à l'école. Et puis, quand ils sont arrivés, mon père était venu avec eux. Les bonnes sœurs, j'étais chez les bonnes sœurs, tu vois, comme je suis élevée, bien. J'étais chez les bonnes sœurs et elles ont essayé de les empêcher de m'emmener. Et ils les ont repoussés, ils ont dit non, on l'emmène, son père est ici. Alors on l'emmène, on a besoin d'elle. Alors il y en a un qui me poussait devant lui, là, avec chaque instant, moi avec mes petites jambes, là, il marchait au pas de loi. Puis moi, il fallait que je cours à côté. Il était quatre pour une drôlesse de 11 ans, là, tu parles. Alors, il m'a emmené, quand je suis arrivée devant la cour du château, là-bas, j'ai vu tout le personnel, toute ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde devant le perron, ma mère devant avec mon père. Et puis, moi, ils m'ont balancé mon sac qui avait un prêt, à une dizaine de mètres. Mais moi, je ne voyais pas le danger, je pensais même pas, je me demandais ce qu'ils allaient faire. Quand on est gamin, on ne voit pas le danger. J'avais 11 ans, mais je me disais, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Puis je regardais tout le monde. Alors je voyais ma mère qui... Elle me regardait, mais tu sais, sans plus, hein, elle me regardait, mais je pense qu'elle devait pas... Elle devait penser qu'il ne le ferait pas. Il y en a un qui parlait bien français. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites à mon sac? Je lui dis, vous lancez mon sac. Eh bien, elle dit, c'est pour faire peur à ta maman. Elle dit, pourquoi? Eh bien, elle dit, si ta maman nous dit pas ce qu'on veut savoir, eh bien, on va te tuer. Alors, je lui disais, moi, et pourquoi? Il disait, et pourquoi? J'ai dit, il a bien vu que je savais rien. Alors, il m'a attrapé par le bras et puis il m'a balancé comme ça. Puis il m'a dit, relève-toi, mets-toi tout debout. Alors là, j'ai vu une espèce d'engin qui mettait au loin la mitrailleuse. Mais moi, pas un instant, j'ai songé qu'ils allaient faire quelque chose. Hein. C'est bien ce qu'il dit que les enfants ne se rendent compte de rien. Hein. Alors, ils ont été les hôtes de la Gestapo, sont allés vers mes parents et puis toute la famille, et puis tous ceux de la ferme, de toute façon. Hein. Alors, ils ont dit, maintenant, vous avez un quart d'heure pour nous dire la vérité, où sont vos armes et où vous les avez cachées, et où est caché l'anglais qui a été parachuté. Alors, ma mère, elle est tenace. Mon père ne savait pas, il l'aurait avoué, lui. Il n'avait pas de volonté. Ma mère en avait, mais pas lui. Alors, elle a dit, ben non, elle dit, vous avez fouillé partout. Ils avaient des chiens et tout. Et pourtant, les armes, elles étaient bien là. Mais dans l'écurie aux moutons. Et les moutons, ça a une odeur qu'un chien ne peut pas détecter. C'était sur des vieilles poutres en l'air. Ils ont rentré les chiens dans l'écurie. Mais c'est ma mère qui me l'a raconté après. Et puis, alors, elle a dit, les chiens, ils n'ont rien détecté. Mais ma grand-mère dit, je crois bien que j'en ai fait pipi dans mes culottes. Elle dit, tellement que j'ai eu peur, elle dit. Alors, ma mère dit, mais vous avez fouillé partout, vous avez bien vu qu'il n'y avait rien. Alors, ça a duré quand même une heure. Hein. Alors, le gars se couchait dans la mitrailleuse, puis mettait son doigt sur la gâchette. Ouais, c'est là que je le regardais. Puis, il a envie de faire joujou, lui. C'est à une période que je me rappelle, parce que ça m'avait quand même impressionné, mais sans penser qu'il allait pouvoir me faire du mal. Parce que s'ils avaient trouvé quelque chose, ils nous auraient tous tués. Ils nous auraient tous tués en été. Non, on ne sortait pas de la cour. Parce que tu aurais vu la Gestapo, comment ils étaient. Moi, j'ai toujours eu peur des Allemands. Mais des simples soldats, non. Mais ceux-là, ces Gestapo, c'est les plus méchants, habillés en noir, une casquette avec l'aigle et un grand collier, une grande médaille là, avec la croix gammée, là. C'était les plus méchants, ceux-ci. Hein. Ils avaient la baïonnette, ils avaient un gros revolver. Puis alors, eux, ils étaient méchants, mais alors méchants. Oh là là. Quand ils te poussaient, eux, ils te poussaient. Hein. Je peux te dire, c'était pas semblant. Hein. Moi, à chaque fois qu'ils me foutaient une poussée, je tombais à quatre pattes, moi. Hein. Et puis, ma foi, au bout d'une heure, eh ben, ils ont dit, toutes les Français, on reviendra, mais vous verrez pas quand on reviendra. Et c'est vrai qu'ils sont revenus pendant un mois. Tous les midis, on était à table, on les entendait pas arriver. Pourtant, avec leur pas de loi, je te dis. Eh ben, ils arrivaient avec des camions, mais ils s'arrêtaient dans un chemin plus bas. Ils arrivaient à notre fenêtre. Pourtant, c'était des graviers, on aurait dû les entendre. Je sais pas par où ils passaient. Avec leur baïonnette, ils tapaient sur la fenêtre de la cuisine. Tous les midis, ils étaient là pour nous surprendre. Et puis, au bout d'un mois, ils en ont eu assez. Et un jour, eh ben, ils ont dit, on ne va pas s'en aller tout seul, on emmène votre père, on emmène votre mari. Et là, c'est là où ils ont emmené mon père. Dimanche matin, je travaillais, moi. Et jusqu'à 3 heures, j'allais servir à table, faire la vaisselle, et j'arrivais chez nous à 3h30. Je courais tout le long du chemin pour arriver à l'heure pour me préparer, pour aller au bal. À Javrozac, là où je suis née, là, vers le pont, ça n'existe plus, c'est un parking maintenant.
Et puis on dansait comme ça jusqu'à 7 heures le soir sans s'arrêter. Le dimanche après-midi, j'avais que ça. Hein. J'avais 2-3 heures à 7 heures et demie. Liberté. On était tous à pied, on se rassemblait sur le pont, on rigolait en partant, on faisait des petits fous là pour partir, tellement pressé d'arriver au bal. Et c'est les garçons qui payaient l'entrée de bal à toutes les filles. Et puis alors, eh ben, on dansait, c'était un orchestre, hein, là, pas de mixage. Et puis on passait toute notre après-midi à danser. C'était marrant parce que c'est eux qui nous choisissaient, en fait, c'est vrai. Mais ils me disaient, tu me réserves ça, tu me réserves ce tango, tu me réserves autre chose. Celle-là, moi, je la fais danser, ça, celle-là, elle dansera ça avec moi. Quand les musiciens voulaient faire une pause, ils nous disaient bis rafraîchissant. Ça voulait dire qu'on s'arrêtait un quart d'heure, que les garçons nous emmenaient boire et que les musiciens se reposaient. Alors on nous emmenait au bar, puis avec des marches à descendre, et les garçons nous offraient quoi ? Une limonade avec de la menthe. Le tango, j'aimais bien, parce que les petites lumières s'éteignaient, et puis on pouvait danser joue contre joue. C'est vrai, même sans s'embrasser, c'était le tango qui veut ça. Un jour, maman me dit, j'ai invité les parents Henri à venir manger ce soir. J'ai dit, pourquoi ? Elle me dit, tu me demandes pourquoi ? Je dis, oui. Elle dit, pour décider la date de votre mariage. Ah ! Mais j'ai dit, on n'a rien décidé. Elle dit, c'est pas vous qui décidez. Elle dit, il y a marre de vous traîner au bal. Elle dit, vous allez vous marier, après vous ferez ce que vous voudrez. Elle dit, ben, ni lui ni moi, on n'a rien dit. Et ils ont discuté entre eux. On va faire moitié-moitié. Bon, on sort le calendrier. On regarde, et là, il n'y aura pas trop de travail. Ils étaient jardiniers. À leur compte, quoi, ils avaient un jardin, ils faisaient tout. Là, ça sera le moment creux un petit peu. On va les marier au mois de mars. Mois de mars, 19 mars 49. Et voilà, le mariage décidé. Et nous, on n'avait rien décidé du tout. Mon vieux. Et c'est que faisait combien de temps qu'on se connaissait à peu près ? Bien 8 mois. Mais je le connaissais, mais on ne sortait pas ensemble. Puisque c'est sa sœur qui était ma copine. Lui, je le connaissais, mais sans plus. Hein.
Vous n'étiez pas très content ?
Non, ni l'un ni l'autre. Si, on s'aimait bien. Parce qu'après, finalement, on s'est rapprochés, quoi. Même nous, on n'avait pas parlé jamais de mariage. Hein. On sortait, on était heureux, nous, comme ça. On était chez nos parents, on sortait le dimanche, ça nous suffisait. Aller au bal. Mais ma belle-mère a dit, ça fera une bouche en moins à nourrir, lui, il sera marié. Allez, surtout que moi, on allait vivre chez ma mère, en plus, avec lui. C'était un calvaire d'habiter chez eux, un calvaire. Surtout que quand il arrivait le mois, fallait qu'il donne sa paye à maman. Mais on n'avait pas le choix. On donnait notre paye tous les deux. Ça nous a pourri la vie. Hein. S'il est mal tourné souvent, comme il a mal tourné, c'est à cause d'elle. Hein, je l'ai toujours dit. Et ma grand-mère l'a dit aussi. Hein. Elle l'a dit, s'il a mal tourné, s'il a mal fait, c'est parce qu'elle a tout fait pour... Vous faire séparer, comme elle n'a pas pu y arriver, elle a fait tout ce qu'elle a pu, même jusqu'à Jarnac, venir nous embêter à Jarnac. Et je dis, si lui a tourné mal, il n'était pas comme ça. Hein. Et quand je l'ai connu, c'était, mais il ne buvait pas une goutte d'alcool, rien du tout.
Moi, j'ai toujours dit, j'ai tenu le coup pour mes enfants, c'est tout. Autrement, il y a longtemps que je serais morte. Moi, j'ai fait une grosse dépression quand je suis partie pendant 2 jours, qu'ils m'ont cherché dans la Charente partout et tout. C'est que je suis partie et je me souviens plus de rien. Et c'est l'épicière en bas qui était venue me voir tantôt. Elle avait dit, j'ai vu Madame Raffier, puisqu'elle venait boire le café avec moi tous les tantôt, l'épicière. On était très bien ensemble. Et ce tantôt-là allait arriver, j'étais en pleurs, mais en pleurs. Ben, ça allait mal avec papy, quoi. Et puis quand elle était partie, ça a redoublé. J'avais peur pour le soir quand il allait arriver, comment elle allait être, et puis ce que j'allais subir. Quand tu encaisses. Je comprends maintenant qu'il y en a qui s'en vont, qui ne savent plus ce qu'ils font, qui vont se noyer, mais j'aurais pu aussi bien les me noyer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai eu le courage de faire manger mes enfants. Ils étaient couchés en pyjama et ils ont dit ils dormaient, tout le monde dormait. Et il a dit la maison était propre. Il a dit et elle a disparu. Le chauffeur de car les a renseignés, là. Il a dit, j'ai trouvé cette jeune femme, il dit, toute bizarre. Il a dit, vous allez où ? Elle a dit, elle m'a sorti de l'argent de sa main, ce que j'avais dans ma poche. Ça allait jusqu'à, quand tu arrives dans Angoulême, au plan. Ben, là, il m'a arrêté là, j'avais pas d'argent pour aller plus loin. Il a pris ce que j'avais, il dit, je peux vous arrêter là. Et là, il a renseigné. Il a dit, moi, je l'ai déposé là, c'est tout. Il a dit, comme j'étais habillée, manteau marron en tweed, chaussures grenat, et puis pas de sac, rien. C'est tout. Il a dit, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est par ma photo dans le journal qu'ils m'ont trouvé. C'est Henri qui a dit, mais comment ça allait ? Il a été voir l'épicerie, lui, tout de suite, il savait qu'on était bien ensemble. Et la mère a dit, mais moi, j'y étais, cet après-midi, elle était très mal. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça. Ben il n'allait pas lui dire que c'est que la nuit d'avant j'avais couché dehors toute la nuit en plein hiver dans la palisse en face. Il m'avait foutu dehors et il a fermé la porte à clé. Le lendemain je me rappelle il descend il prend son café il prend la bouteille de cognac je sais pas où il achetait son cognac. Je lui prends la bouteille des mains et je lui casse comme ça devant ses pieds. Putain j'ai cru qu'il allait me tuer.
Il buvait le matin.
Oui, du cognac, dès le matin, il est plein vert. Alors, je lui ai cassé en milieu du couloir. Puis j'ai dit, maintenant, tu vas embaucher, tu te casses, dis, puis je ne vais plus te voir. Là, je savais qu'il était dessoulé, maintenant, je pouvais lui dire ce que je voulais. Quand il était dessoulé, tu pouvais dire ce que tu voulais, il ne répondait pas.
Mais il avait honte,
je sais qu'il avait honte. Mm. Mais moi, ce qu'il y a, moi, je ne me plaignais à personne.
T'as pas frappé à la porte ?
Non, non. Je voulais pas que personne ait pitié de moi ou je me fasse remarquer par les gens. Dans le temps, ils auraient pas compris. Ça serait maintenant. J'aurais peut-être eu le courage d'aller aux gendarmes, chez les gendarmes. Mais il y a pas longtemps que les gendarmes font attention aux femmes qui sont battues, hein, qui vous sont maltraitées. Ben, je pouvais pas écrire. J'avais écrit 2 ou 3 fois ma mère pour lui dire. Elle dit, oh, tant que ce que tu mérites, qu'elle m'avait répondu.
Comme on avait juste une voiture, c'est ma maman qui a été la première à Lourdes. Il a fallu que Henri l'emmène à Lourdes. Et moi, je restais à garder tous les mioches. Tout le monde y avait été chez nous, sauf moi. Alors, maman a dit, toi, tu iras une autre fois. Bah, bien sûr, moi, je restais encore là. Toujours elle qui partait la première. On était mariés pas longtemps, mais moi, je restais à la maison. Même une fois qu'on a eu la voiture, tous les dimanches, madame, maman décidait qu'on allait au bord de mer. À préparer à manger, on n'avait rien à dire. À préparer le panier, on mangeait au bord de la mer. Mais fallait aller où elle voulait, à l'endroit où elle voulait. Et voilà. Mais enfin bon, du moment qu'elle payait le manger, qu'elle payait tout, nous ça nous sortait. On n'aurait pas pu autrement. À payer l'essence. Mais il fallait aller où elle voulait. Bon, et puis après, on a changé de voiture. On s'est acheté une plus grosse. Il a dit, je lui dis pas qu'on achète une autre voiture. Et puis après, il a dit, maintenant, il y a 3 enfants, nous, hein, on peut plus en mettre avec celle-là, on peut pas en mettre beaucoup dedans. Hein. Voilà. Et voilà, le jour où j'ai pu sortir qu'avec mes enfants, moi, j'étais un peu contente. Hein. Puis après, la fois que j'étais à Lourdes, moi, j'ai dit, j'emmène pas la mémé. Hein. Quand on est revenu, qu'est-ce qu'on s'est pris le soir? Qu'on était partis sans rien prendre, sans les emmener, sans leur en parler. C'était pas la fin qu'a payé tout quand on y allait. Ah, il lui commençait le conflit. À force, la fini par éclater un jour. Hein.
Il lui a gueulé dessus.
Mais il a mis une gifle hein, à Henri. Hein. Mais, et lui, il a remis. Hein. Je peux te dire, moi, et puis pas une petite. Hein. Il a dit, bien assez que vous m'avez pris ma paye pendant plusieurs années. Hein. Alors, décider quand on sort, décider quand fallait aller pisser, presque. Alors, il a dit, maintenant, il y en a marre. Il a dit, alors, je ne sais pas ce qu'il a traité de vie, je ne sais pas quoi. Allumer une gifle, oh, lui, il n'a pas tardé, le retour, elle est aussi sec. Non, ah, ça m'est pris une. Oh là, là, j'ai eu peur, j'ai dit, ça va finir mal. Alors, j'ai dit, tu rentres hein, maintenant, parce que, oh là là, j'ai
dit.
Elle a dit quoi, elle? Ben, assez en chiolant, parce qu'elle savait faire la comédie, elle. Hein. Oh, j'aurais dit, t'aurais pu t'en dispenser. Il dit, moi, il y a longtemps que ça me gonflait, dit, que j'avais envie, dit, hein. On dit qu'il a été, des fois, qu'il a été mauvais, mais elle a tout fait pour que ça arrive aussi, hein. Et quand elle a fait un infarctus. Elle a été à l'hôpital, puis après, elle a resté 2 mois chez elle. Je suis allée la soigner deux mois à Javrozac. Et j'ai laissé Henri encore tout seul, là, pour aller soigner ma mère. Et c'était ma mère. J'ai eu peur de la perdre. Malgré tout ce qu'elle me faisait, j'avais peur de la perdre. Mais de le laisser tout seul, eh ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait traîner les bas, quand il était tout seul. Son patron était venu me voir à Javrozac. Il était venu me porter sa paye. Il a dit, il veut que je vous la donne. Il s'en est gardé, il veut que je vous la donne, mais il est venu lui-même, le patron, là, le chef de district.
Je sortais, j'emmenais les enfants avec moi. J'avais toujours le sourire, tout le temps.
Pourquoi?
Parce que je ne voulais pas que... Je me disais, les gens ne me croiront pas si je dis ça. Je subissais sans jamais rien dire. Une seule fois, j'ai été... chercher le patron, son patron. Parce que là, il s'était renfermé, je ne sais pas avec lequel des enfants dans la cuisine, et il me disait, si tu essayes à rentrer, je mets le drôle sur la cuisinière. Alors là, j'ai tellement eu peur, j'ai rien dit, j'ai pas répondu quand il a dit ça. J'ai couru, c'était pas loin, l'EDF, là, il y avait le patron qui habitait là. J'ai lancé des pierres dans les carreaux, et c'est lui, justement, qui a entendu, il a sorti. Il m'a dit, mais ma fille, qu'est-ce que vous faites là? Alors je l'ai appelé, j'ai dit, vous voulez bien avancer s'il vous plaît? Alors je lui ai raconté ce qui se passait. Il m'a dit, attendez, je prends une veste et je viens avec vous. Il a dit, vous savez où est votre femme? Il a dit, vous allez la laisser monter là-haut. Il a dit, moi je vais rester avec vous ici. Et que demain matin, elle ne me dise pas quelque chose, parce que là, vous aurez affaire à moi. Il a dit là que c'était, il craignait lui, il était sévère celui-là. Et il a eu honte là, hein? Qu'est-ce qu'il a eu honte?
T'aurais pas pu le dire à une amie, à toi?
Ah ben non, mon ami, les amis, non, j'en avais pas tellement. D'abord, avant j'avais les enfants, je voisinais pas. Alors, puis j'aurais pas voulu lui dire si, j'avais une voisine, je m'entendais bien avec elle, l'épicière. J'allais souvent manger avec elle. La femme du chef de district d'Henri, du patron, j'allais souvent manger avec eux chez eux. Quand il était en déplacement, sa femme m'a invité à manger.
Et t'avais pas envie de te faire plaindre, en fait?
Non, ben voilà, je me disais... Puis ma mère m'avait tellement dit, tu t'as que ce que tu mérites. Alors si j'ai ça, si on me fait ça, c'est que je l'ai mérité. Après, j'étais embauchée chez Courvoisier, là, c'était pas pareil, là. Ah là, il m'en a fait chier aussi, mais... Mais là-bas, là, non plus, je le disais jamais rien, avec toutes les fumelles, là. Voilà, ça avait rien, hein. J'avais qu'une copine par là que... J'avais fait connaissance quand on est arrivé là. Quand j'ai embauché chez Courvoisier, j'ai fait sa connaissance. Elle avait un mari qui était un peu comme ça. Et elle a dit, ben, elle a dit, le mien, il est un peu comme ça, Jean. Alors, elle venait boire le café chez nous quand on ne travaillait pas. Elle était de renfort, elle venait. Et puis, elle avait vu, elle voyait, elle, tout ce qui se passait. Alors, elle a dit, tu sais, Simone, elle est prête à partir, là. Hein? Elle m'a dit que maintenant, elle allait s'en aller. Elle va pas tarder, hein, à s'en aller. Oui, mais elle dit, tu comprends, elle galope tout le temps. Il dit, elle galope, comment ça, avec ses drôles. Elle va travailler à galope. Il dit, comment, où veux-tu qu'elle aille? Il a dit, elle part travailler. Alors, et il a tellement eu peur, je crois que c'est elle qui l'a fait, qui s'est arrêtée d'un seul coup de boire. Il a dit, là, tu vas perdre gros, ça s'en va. Hein. Et puis, il s'est dit qu'il a eu peur. Un jour, je l'ai vu, il avait un frigo dans son garage. Le frigo qu'on avait là, un vieux. Il mettait toutes ses bouteilles dans le garage. Un jour, je l'ai vu emporter dans la remorque le frigo. J'étais, oui, tu partais avec son frigo. Il avait été le mettre à la déchetterie. À partir de ce jour-là, il n'a pas bu une goutte. On n'en revenait pas.
J'en ai vu toutes les couleurs avec lui, mais le jour où il a cessé de boire, ben je me suis rendu compte que je l'avais toujours aimé quand même. Hein. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Surtout qu'à la fin, il m'a demandé pardon, hein, lui, pour tout ce qu'il m'avait fait. Mais moi, je lui en veux pas. C'est pas de sa faute, de toute façon. Mais dès qu'il n'avait pas bu du tout, il aurait été me chercher la lune si je lui avais demandé. Et tout ça, c'était pas par la faute de ma mère. Un jour, quand pas longtemps après qu'elle a été morte, j'étais au cimetière. Je m'y suis soulagée, je sais pas pourquoi je l'ai engueulée devant ce que cimetière. Mais je lui ai dit, tu vois, tu nous as pourri la vie. Tu vois où on en est maintenant. Et c'est pour ça que je dis, je lui en voudrais pas. Lui, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, visionne, substantif.
Qui a rapport au menstru.
Argot. Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des lois établies.
Vitres qui.
L'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
des gamins,
de la procédure normale et lycée.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Bon matin,
le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
m'éclatait en bouche. Les nouvelles clandestins en état
d'outil ne seraient pas du cavaleur. D'un choc ou d'un changement de
l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un
inanimé menstruel fréquent.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24. Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.